Salutations aux gens qui nous écoutent en Outaouais au 104.7, en Estrie au 107.7 et dans le Grand Montréal au 98.5 FM et bien sûr sur Internet. Vous savez, c'est toujours possible de nous écrire via les médias sociaux, Facebook, Twitter ou encore via courriel. Et dans la prochaine heure, on va parler des adolescents. Je vous en ai parlé brièvement tantôt. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rester zen et rester calme avec nos ados? C'est pas toujours évident. On le sait, les hormones dans le tapis, ça peut parfois faire des petites flémèches, comme on dit. Alors, il y a Nadia Gagné, psychologue, qui sera avec nous aux alentours de 11h30. Et pour tout de suite, on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on mange réellement? Je sais que l'an passé, dans la restauration, on a parlé de côtes d'escalope de veau, qui n'était pas vraiment du veau, c'était du porc. On a parlé de saumon transgénique également, qu'on peut encore se procurer maintenant dans les épiceries. On ne sait pas trop vraiment d'où vient parfois le bœuf, le poulet, même les légumes. Tout ça, c'est assez compliqué. Et on va en parler avec Stéphanie Côté, qui est nutritionniste pour Extenso et auteur de plusieurs livres. Salut Stéphanie.
Bonjour Catherine.
C'est pas évident de savoir exactement ce qu'on mange. Parce que oui, il y a une recherche qu'on peut faire, évidemment.
Oui.
Mais je pense que c'est plus que juste une petite recherche. Là. Ça va plus loin que ça.
Bien, ça va plus loin que ça. En fait, si on regarde tout ce qu'on a dans notre panier d'épicerie, la plupart des gens vont acheter beaucoup d'aliments transformés et ultra transformés. Et c'est sûr que cette catégorie d'aliments-là, il y a beaucoup de points d'interrogation qui viennent avec. Quels sont les ingrédients, les additifs, les procédés de transformation? Est-ce qu'il y a une présence d'ingrédients issus du génie génétique et autres? Donc ça, c'est vraiment une classe d'aliments où il y a beaucoup de questions à se poser. Mais évidemment, avec les simples fruits et légumes aussi, on peut s'en poser des questions. Est-ce qu'il y a des pesticides qui sont utilisés? Où est-ce qu'ils sont cultivés? Et donc, vraiment, il y a des questions à tous les repas qu'on peut se poser.
Mais justement, on se pose ces questions-là quand on est au supermarché. Tu sais, je me doute si j'achète, je sais pas moi, des produits comme tu mentionnais, transformés, de trouver l'origine de tous les aliments, ça risque d'être un petit peu compliqué,
oui.
Mais on parle de fruits et légumes. Il n'y a pas une façon de savoir s'il y a eu des pesticides. On sait de quel endroit il provient, là, généralement, mais ça s'arrête là.
Bien, généralement, c'est mentionné si ça vient, par exemple, du Québec ou d'un autre endroit dans le monde. Mais quand c'est biologique, c'est généralement encadré aussi là, l'utilisation de pesticides et on sait qu'il y a moins de résidus de pesticides dans ces aliments. Mais sinon, c'est les aliments conventionnels. Oui, on se doute qu'il y a des résidus de pesticides là-dedans. C'est réglementé tout ça. C'est surveillé. C'est sûr qu'il y en a des petites quantités, mais il faut quand même surtout pas s'empêcher de manger des fruits et des légumes à cause de cette présence-là. Je pense que ça reste des aliments qui sont extrêmement importants pour la santé. Mais c'est quand même important de parler d'où viennent les aliments, puis pas juste les fruits et les légumes. C'est sûr que les fruits et les légumes viennent de la terre ou d'un arbre. Ça reste assez simple. Mais quand on regarde, par exemple, la viande ou même les œufs, le lait, il y a des animaux derrière ça. Et comment sont traités les animaux? Comment sont élevés les animaux? Ça, c'est d'autres questions qu'on ne se pose pas toujours et qui méritent vraiment une réflexion parce qu'on en parle de plus en plus, les choix éthiques, les choix éco-responsables, pour savoir comment ils ont été traités, ces animaux. Est-ce qu'on est en train d'encourager un mode de production qui ne respecte pas les animaux? Est-ce qu'il y a moyen? En fait, pas juste les animaux, parfois c'est l'environnement qui vient avec aussi pour toute la culture céréalière qui vient pour nourrir les animaux. Donc, toutes ces questions-là, ça vaut la peine de se poser des questions, de choisir aussi, parfois quitte à payer un petit peu plus cher, des viandes qui viennent d'un boucher qui nous explique d'où viennent les animaux et nous rassure sur les manières de production aussi. Je pense que c'est de plus en plus dans la conscience des gens.
Oui, parce que il y a longtemps, on disait regardez la carte nutritionnelle.
Oui.
À l'arrière de la boîte, là, vous allez avoir la nutrition, vous allez avoir il y a combien de pourcentage de gras, le glucose. Et on avait toute l'information. Ça, on a été très, je pense, sensibilisés à ça. On le fait maintenant de plus en plus, mais là maintenant, ça va quand même. On parlait de traçabilité, en fait.
Oui, puis en fait, c'est vrai que on s'est beaucoup intéressé au tableau de valeurs nutritives, puis comme professionnel de la santé, oui, on a dirigé les gens vers cette information-là aussi, et on se rend compte avec le recul que c'est un petit peu une dérive. C'était une erreur que de focusser sur ces chiffres-là parce que les calories, les sucres, les gras, le sodium, ça devient très réducteur d'analyser les aliments avec ces simples chiffres-là. Les aliments ne sont pas la somme de nutriments. Ils sont vraiment plus que ça. Il y a des ressources, il y a des humains, il y a parfois des animaux derrière les aliments. Et un aliment, c'est pas parce qu'il va contenir, qu'il ne contient pas de gras trans ou de gluten ou moins de sucre ou moins de sel qu'il devient meilleur pour la santé nécessairement. Et à force de focusser sur simplement des chiffres et de regarder et de se laisser influencer aussi par les allégations des fabricants, les sans cholestérol, sans sucre, moins de sel et tout ça, ben ça fait que on a oublié de regarder l'aliment dans son ensemble et on revient vers ça.
Mais c'est vrai que le marketing a été très très fort, même on disait santé par tel regroupement qu'on connaissait pas trop non plus, mais ça fait en sorte que ça a changé notre regard également de l'alimentation, qu'on est peut-être même allé vers des aliments qui étaient peut-être même plus transformés finalement.
Ben oui, absolument, parce que on a vu, tu sais, le summum là du ridicule, là, les chips sans cholestérol, comme si ça devenait bon pour la santé. Il y en a plein des exemples comme celui-là. Donc effectivement, on s'est détourné des valeurs importantes. On a choisi des aliments qui étaient ultra transformés, mais qui avaient, il y avait moins de sel, il y a moins de gras, et ça devient très mathématique comme choix. Alors, quand on se concentre davantage sur comment ils sont faits, les aliments, quand on regarde la liste des ingrédients, puis qu'elle fait 12 lignes, la liste des ingrédients, on sait qu'on est en face d'un aliment ultra transformé qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on ferait à la maison. Donc, on essaie de dire aux gens, mais essayez de voir de quoi ça a l'air quand vous le faites à la maison, puis comment vous alimenter pour que ce que vous achetez aussi, ça s'en rapproche le plus possible.
Oui, parce que quand il y a des mots très, 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 très longs, des mots qu'on connaît pas trop non plus dans la liste d'épicerie, là, de la liste des ingrédients que j'appelle, il reste que c'est peut-être déjà un signe, là.
Ben oui, quand les listes d'ingrédients ne ressemblent pas aux listes d'ingrédients dans un livre de recettes pour faire une recette, là, déjà, on est à côté du naturel. Et vous savez, il y a environ 40-50 ans, les aliments transformés, ultra transformés, composaient même pas 20-25% de notre panier d'épicerie. Maintenant, c'est 50% de notre panier d'épicerie.
C'est parce qu'on veut manger du prêt à manger, on veut plus cuisiner. Pourquoi on en a autant?
Ben, en grande partie, c'est ça. Les aliments ultra transformés, là, je pense par exemple aux biscuits, même aux céréales à déjeuner, aux pizzas surgelées, aux yogourts aromatisés. Tout ça, ça rentre dans la catégorie des aliments ultra transformés. Et les viandes déjà assaisonnées, par exemple, marinées, mais surtout les croquettes, par exemple. C'est vraiment qu'il y a une transformation supplémentaire, mais ça fait, oui, ce sont des solutions rapides pour les repas. C'est vraiment une façon d'avoir des raccourcis quand vient le temps de préparer les repas, quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc, en grande partie, c'est ça. Je pense qu'avec ces, disons, je ne vais pas les appeler les solutions, mais avec ces alternatives, les gens ont aussi, avec le temps, de moins en moins cuisiné. On se rend compte que culturellement parlant, il y a une perte de compétences culinaires aussi. Les gens cuisinent moins. Il y a moins un transfert de ces connaissances culinaires-là. On cuisine moins devant les enfants, avec les enfants aussi. Donc, c'est un cercle vicieux. Il y a une roue qui tourne ici. Et c'est pour ça qu'on sonne une petite sonnette d'alarme aujourd'hui et de manière générale aussi pour dire, on devrait juste un petit peu plus cuisiner. Et juste ce geste-là va faire en sorte qu'on va connaître bien, bien, bien davantage ce que l'on mange, et c'est la grande question aujourd'hui.
Oui, puis il y a des répercussions également associées à ça, c'est-à-dire qu'une alimentation avec des aliments transformés, ultra transformés, on en parle souvent, des risques de cancer, risques de maladies cardiovasculaires également, taux de cholestérol plus élevé.
Oui, parce que les aliments ultra transformés, ce sont ceux qui ont la moins bonne valeur nutritive au bout du compte. C'est ceux qui sont moins riches en vitamines, en minéraux, puis là, je ne veux pas me mettre à nommer tous les nutriments, mais globalement, la valeur nutritive est moins intéressante. C'est souvent des aliments qui sont moins rassasiants, des aliments plus caloriques, donc qui fait qu'on en mange davantage. Ça contribue aussi au risque d'obésité, et ça vient avec un paquet de risques pour la santé. Donc, c'est vraiment démontré que les populations qui mangent beaucoup d'aliments transformés ont un bilan santé beaucoup moins bon.
Oui, donc c'est important de s'y mettre. On va parler des OGM après la pause parce qu'il y a plusieurs questions reliées à ça. On parlait d'ailleurs d'aliments transformés, mais d'aliments transgéniques également, avec le fameux saumon là, qui est de retour dans l'actualité. On en a parlé d'ailleurs l'été passé. Semble-t-il qu'il y en a encore dans nos épiceries. On en parle avec Stéphanie Côté, qui est nutritionniste pour Extenso et auteur de plusieurs livres. Et si vous avez des questions justement posées sur la nutrition, 514-790-9850, 1-866-790-9850. 11h18, 1-866-790-9850, 514-790-9850. Les aliments transformés, les OGM, est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette? Et même quand on va au supermarché, parfois on fait des achats qui sont plus ou moins intéressants, puis finalement, on ne le sait pas, on ne s'en rend pas trop compte. On est avec Stéphanie Côté, nutritionniste pour Extenso et auteur de plusieurs livres. Bon, on parlait de plusieurs choses tantôt, Stéphanie. Évidemment, il ne faut pas mettre tout dans le même bateau. Là, on parle d'aliments transformés, d'aliments transgéniques, de OGM aussi à plus large échelle. Dans l'actualité, la semaine dernière, il y avait le fameux saumon transgéné qui peut-être se serait retrouvé dans nos supermarchés. On n'a pas de confirmation. On a trouvé donc du saumon surgelé qui est arrivé au port de Montréal, mais on ne sait pas à quel endroit nécessairement, dans quel supermarché. Mm-hmm. Mais il reste une préoccupation quand même que les gens peuvent avoir. Un aliment, tu parles d'un saumon transgénique, c'est pas ce qu'il y a de plus santé, là, à mon avis. Là.
Mais en fait, il y a encore beaucoup de doutes à l'égard des aliments transformés génétiquement et avec raison aussi. On ne sait pas où ça va nous mener, tout ça. Et le fait de ne pas être capable de les identifier, ces aliments-là, c'est ça qui est le plus dérangeant pour la plupart des gens. Parce que là, de savoir qu'il y a du saumon transgénique qui est débarqué au Québec et de même pas savoir si le saumon qu'on va aller acheter à l'épicerie en est, ça c'est préoccupant.
Et c'est pas indiqué dessus, là. Attention, saumon transgénique.
Pas du tout, et surtout pas avec un attention, mais ce n'est pas non plus à déclaration obligatoire. Les OGM, les compagnies ne sont pas obligées de le déclarer. Ça fait donc en sorte que, bon, du saumon transgénique peut se retrouver sans qu'on le sache. On peut le demander et peut-être que l'épicier ou le poissonnier va être en mesure de nous répondre si lui-même est bien renseigné parce qu'en théorie, il est capable de savoir d'où ça vient. Donc, il faut poser des questions. Mais sinon, même à l'égard des fruits et des légumes génétiquement modifiés, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que les gens se demandent beaucoup le maïs que l'on mange?
Maïs, tu sais,
notre bon blé d'Inde du Québec, là, est-ce qu'il est génétiquement modifié? La pomme de terre, on a entendu parler récemment. Et c'est important de savoir qu'il y a plusieurs cultures qui sont autorisées au Québec comme étant des cultures génétiquement modifiées. La pomme, le maïs, les pommes de terre, la tomate en font partie. Mais il y a une marge avec qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est vraiment pratiqué et commercialisé. À l'heure actuelle, le gouvernement du Québec nous dit qu'il n'y a pratiquement pas de fruits et de légumes génétiquement modifiés qui se retrouvent sur les tablettes. C'est un petit peu moins certain pour le maïs et peut-être certaines pommes, mais là où je trouve ça déplorable, c'est qu'on ne peut pas les identifier. Mmh. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, vous savez les codes, les étiquettes qu'il y a sur chaque fruit et légume, la petite étiquette qui se colle,
qu'on décolle,
qui est 4 chiffres ou 5 chiffres, qu'on ne regarde même pas. Mais ces chiffres-là sont là pour quelque chose. On appelle ça le code PLU, P-L-U. Et les 4 chiffres sont pour les aliments conventionnels. Quand c'est un code à 5 chiffres qui commence par un 9, c'est du bio. Et auparavant, quand c'était 5 chiffres qui commençaient par un 8, c'était pour les aliments génétiquement modifiés. Mais parce que sur le marché, il y a de plus en plus d'aliments conventionnels qui ont besoin de leur code, l'association qui donne ces codes-là a éliminé la spécification du 9. En fait,
du 8 ou du 9, oui.
En fait, du 8, il reste là pour les... Le code pour les bio, il reste là, mais ils ont éliminé celui pour les aliments génétiquement modifiés. Donc, avant, il y a quelques années, alors qu'il n'y en avait même pas sur le marché, on aurait pu identifier des aliments génétiquement modifiés de cette façon-là. Et maintenant, non. Donc, je trouve que je voudrais pas dire hypocrite, mais c'est un peu ça que je pense quand même. éliminé ce code-là parce que c'était presque le seul repère qu'on pouvait avoir vu que ça n'est pas à déclaration obligatoire. Mais il faut savoir que les OGM, les cultures de canola, de maïs grain et de soya au Canada et au Québec, ce sont les plus répandues et c'est davantage destiné presque exclusivement destiné à l'alimentation animale. Donc, nos vaches, nos cochons, nos poules mangent de ces aliments-là.
Mais puis on finit par en manger nous aussi, par exemple.
Et on finit par en manger. En fait, c'est la chaîne alimentaire, mais le début de notre propre chaîne alimentaire, c'est souvent du génétiquement modifié. Et il y a beaucoup d'aliments transformés, issus, par exemple, du maïs ou du soya. Je pense à la lécithine de soya, à l'huile, aux ingrédients qui rentrent dans la composition d'aliments du commerce. Mais ça aussi, ce sont des sous-ingrédients d'OGM, finalement, qui se retrouvent dans plusieurs aliments que l'on mange. Donc, de cette manière-là, on est exposé. On ne dit pas ce ne sont plus des organismes génétiquement modifiés parce que là, les chimistes et biologistes vont nous dire bien, il n'y a plus le gène. C'est le gras purifié, c'est la lécithine purifiée. Il n'y a plus les gènes. Mais quand on regarde le système alimentaire dans son ensemble, on est en partie nourri par le génie génétique.
Ben écoute, si je regarde si toutes les bêtes, puis il y en a qui vont dire ouais, mais arrêtez de manger de la viande, je comprends là, mais ils peuvent en avoir ailleurs également dans le blé comme tu le mentionnais, le soya et compagnie, le grain de maïs aussi. Mais les dangers, parce que c'est pas tout le monde qui s'entend non plus sur les dangers de manger des OGM aussi. Il y en a qui vont dire, si oui, ça peut être extrêmement dangereux, faut complètement les éliminer de notre vie. D'autres, faut comment apprendre à en laisser aussi, là.
Mais il y a des ardents défenseurs des OGM et il y a ceux qui les dénoncent. Scientifiquement, on a à peu près tous les arguments pour dire que manger des OGM, ça nous transformera pas, ça augmente pas le risque de maladie et tout ça. Et il y a ceux qui prônent par le principe de précaution aussi, de dire ben ça fait pas si longtemps que ça dans notre alimentation qu'il y a ces aliments-là. Et c'est même pas juste d'un point de vue santé, d'un point de vue plus global, environnemental, éthique, de grains aussi. On est en train d'éliminer un paquet de cultivars, de variétés, de toutes sortes de grains au profit de ceux qui poussent mieux, qui peuvent pousser dans des terres plus arides, qui survivent à tel insecte ou telle maladie. On est en train de purifier les races, en quelque sorte, de grains et de céréales. Et ça, ben, c'est très, très préoccupant.
Oui, parce que c'est jusqu'où on va se rendre, finalement.
Ben oui, oui. Puis quel problème ça peut amener dans le futur aussi de raffiner à ce point-là et de se limiter en nombre à tellement peu de variétés d'aliments, ça risque d'amener des problèmes là, dans le futur.
Et justement, pour les gens qui veulent en savoir plus, parce que je sais que c'est une préoccupation et on le mentionnait tantôt avant d'aller à la pause, quand on fait le supermarché, on n'a pas 4 heures pour faire des recherches, pour voir la petite étiquette, là, le plus, puis là, qu'il lui avait un 9, puis là, il n'y a plus du 8. Fait que là, je ne sais pas si c'est un OGM ou je sais que ça peut être un bio et tout ça, mais ça devient extrêmement compliqué. Mm-hmm. Puis il n'y a pas moyen, à part d'aller faire ses recherches sur Internet, mais comme je le disais, on n'a pas 4 heures pour faire le supermarché, là.
Non, mais
puis être là avec notre ordinateur, d'aller en aller.
Mais il n'y a pas moyen de savoir si tous les ingrédients, tous les aliments qu'on voit sur les tablettes d'épicerie, il n'y a pas de moyen, ni pour moi, ni pour vous, pour savoir lesquels viennent de où. Est-ce qu'il y a quelque chose d'issu du génie génétique là-dedans? Il y a sur le site, par exemple, Internet, vigilanceogm.org. Ils nous donnent des indices, ils nous disent où regarder, quels ingrédients sont davantage issus des OGM. Donc ça peut aider. Mais sinon, je dirais que encore la bonne méthode, la même finalement solution que pour les aliments transformés, le moyen de s'y exposer le moins possible, c'est de cuisiner le plus possible à partir d'aliments de base, parce qu'il y a encore très, très peu d'aliments de base qui sont issus du génie génétique. Fait que ça reste vrai.
Ça nous rassure un petit peu.
Oui, donc c'est peut-être une autre motivation pour cuisiner et on fait une pierre deux coups là, avec ça, parce que moins d'OGM, moins d'aliments transformés aussi, ça peut être que bénéfique.
Et Alinda qui nous écrit d'ailleurs par courriel, je vous invite à le faire également. Concernant les OGM, je fais mon propre jardinage. Je commande mes semences sans OGM. Il y en a beaucoup. J'achète également local. Je fais attention aux autres produits animaliers et aussi aux poissons. Et je tourne le dos à tous les produits venant de la Chine. Est-ce que ça serait peut-être une façon de tourner tous les produits venant de la Chine ou de d'autres pays qu'on est peut-être moins certain de la façon de faire?
Bien, étant donné qu'il y a eu déjà quelques controverses dans le passé des aliments de cette provenance, oui, ça peut être une solution. Mais en fait, d'acheter le plus local possible, c'en est une excellente solution. Quand on peut poser les questions, d'où viennent les aliments, comment ils ont été cultivés ou les animaux, comment ils ont été élevés, ça, je pense que déjà, là, c'est un excellent pas dans la bonne direction.
Puis il y a moyen quand même d'acheter local, et je sais qu'il y a toujours une mauvaise compréhension parfois, c'est que ça coûte cher. Mon bœuf va me coûter plus cher parce que là, c'est un bœuf qui a été élevé à telle chose et qui a mangé telle herbe, qui c'était très bio.
C'est certain qu'il y a un petit coût à payer quand on achète, quand on sait d'où ça vient, quand le boucher va nous dire d'où ça vient,
le
mais quand l'éleveur, le producteur, lui, nous assure qu'on est capable de voir les vaches qui se promènent dans le champ ou encore les cochons qui sont pas tous entassés, c'est pour ça que l'on paye. Mmh. Et quand on se pose cette question-là, on paye pour un cochon qui est élevé en 9 mois au lieu de 6 mois. C'est une différence. Ils sont pas nourris de la même façon, ils sont pas élevés de la même façon, ils sont pas médicamentés nécessairement de la même façon aussi. Et c'est pour ça que l'on paye davantage. Donc, il faut juste peut-être prendre un petit peu de recul pour voir, dans le fond, c'est une question de valeur. C'est plus juste une question de santé ou de nutrition. C'est une question de valeur.
Et le bio dans tout ça, parce que le bio aussi, il y a eu une mode à la limite. Hein, je vais acheter des fruits et légumes qui viennent de très, très loin, qui ont pris l'avion, mais ils sont bio. Donc, quand on parle d'empreinte aussi énergétique, ça en fait partie de ce mouvement-là aussi bio. Est-ce que c'est meilleur pour la santé? Ça, c'est la question qui revient tout le temps.
Il y a plusieurs études et le constat général, c'est que ce n'est pas démontré que pour la santé, c'est meilleur de manger bio. Bien sûr, on ne peut pas être contre la vertu. oui, c'est mieux le biologique. Quand on réduit l'utilisation de pesticides, ben oui, c'est sûr que c'est mieux. Mais au bout du compte, manger des fruits et des légumes en grande quantité, c'est ça qui reste bon pour la santé. Si on n'a pas le budget pour acheter juste du bio, on s'en prive pas des fruits et des légumes. On en mange des conventionnels, on les lave, on les pèle, mais ça va demeurer un bon investissement là, pour notre santé.
Okay. Mais c'est pas nécessairement meilleur.
Meilleur. C'est sûr que ceux qu'on va faire dans notre jardin, comme la dame qui vient d'écrire, non seulement ils vont être à peu près bio, pour ainsi dire, et aussi tellement meilleurs au goût. Donc ça, c'est sûr que si on peut se le permettre, là, je l'encourage fortement.
Et je dirais même plus, ils vont être pleins d'amour.
Oh oui, ça compte.
Ça compte pas mal. Stéphanie Côté, merci, c'est toujours un plaisir. Je rappelle, nutritionniste pour Extenso et auteur également de plusieurs livres sur le marché. Grand plaisir, passe une belle fin d'été.
Merci
tellement, un bonheur de t'avoir à l'émission. Au retour, on parle des ados, les émotions des ados. Tu sais comment pas s'arracher les cheveux là, quand tu nous arrives avec des plantes fous complètement. Alors, on va en parler avec la psychologue Nadia Gagné.